Je vous avais promis en début d'émission trois invités. Nous en sommes au troisième et non le moindre, qui est très polyvalent. C'est un poète, un essayiste et psychiatre de profession. Alors, dans sa biographie, à quelque part, vous allez trouver qu'il est descendant du colon français révolutionnaire Nicolas Mallet, qui est un officier signataire de l'acte d'indépendance d'Haïti. Il vit au Canada depuis l'enfance. Il y passe son adolescence. Quand sa famille, s'opposant dès la première heure à la dictature, gagne exil. Il part faire des études à Strasbourg. Il se lie à la mouvance situationniste au début des années 70. Et je dis bien, il s'initie à la psychanalyse, entre autres. Il a aussi une spécialisation en chirurgie générale. Il est psychiatre et psychanalyste. Il a gagné, je vous disais qu'il était l'un des plus primés au niveau de la communauté. Et quand je parle de communauté, je ne parle pas uniquement de la communauté haïtienne. Je parle de toutes les communautés, donc du Québec, du Canada. 2017, exemple, membre de l'Académie des Lettres du Québec. 2016, prix Fête-Cani, Maryse Condé de poésie pour son livre, son recueil de poèmes, qui est magnifique d'ailleurs, chaud. Et il a été conférencier et invité à l'université Emory à Atlanta, invité d'honneur du Salon du Livre de Montréal, finaliste du prix Alain Grandbois pour Gaillac, prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre, mention prix Casa de las Américas pour Caïc, finaliste du prix du Livre Insulaire pour Caïc et Un Autre Soleil, Vétiver, prix du gouverneur général pour la traduction anglaise, décerné au traducteur Hugh Ezelton, grand prix du Festival international de la poésie pour Vétiver, grand prix du Livre de Montréal pour Vétiver, prix de la Société des écrivains canadiens pour Théorie Caraïbe, prix d'excellence de Laval pour Savane, finaliste du prix du gouverneur général pour Tribu. Donc une œuvre abondante. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase plutôt sur le mot en haine, comme on dit de plus en plus, et nous allons dialoguer avec Joël Desrosiers, hein, c'est lui, hein, qui est notre invité, qui nous parlera de la provenance du mot, que ce soit la signification du mot en littérature, que ce soit en psychiatrie, en psychanalyse, et on va parler de tout ça. Alors Joël Desrosiers, bonjour.
Bonjour Henri Saint-Fleur, merci de votre invitation. Et la présentation fut très amicale, mais ma foi trop longue. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi pour parler donc d'étymologie, d'histoire, d'un mot qui est un événement moral, le mot nègre.
Alors, qu'en est-il justement de ce mot ?
Eh bien, peut-être quelques mots d'étymologie. Mm-hmm. Il me semble que ça serait important d'essayer de savoir d'où vient ce mot et de clarifier des origines historiques un peu anciennes, mais qui tout de même peuvent nous intéresser. En fait, ce mot, pour moi, c'est l'un des plus beaux mots de la Terre, puisque c'est un mot très fort, il est synonyme de fécondité, il est synonyme également de force et d'eau. Alors, historiquement, Hérodote, l'historien grec, va révéler que dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Africains et les Grecs étaient alliés, puisque les Africains remontaient jusqu'à la Méditerranée, les Grecs descendaient vers le sud, si bien que ce qu'on va appeler la Libye de l'Antiquité comprenait donc le Maghreb actuel, le Sahara, les territoires qui sont plus au sud. Et ces peuples-là, qu'on a appelés les Nigriciens, j'épelle N-I-G-R-I-T-I-E-N-S, signalé donc comme une des plus célèbres tribus de cavaliers nomades, utilisaient des chariots. Et la beauté de leur peau noire était à l'origine du mot latin Niger, lequel étymologiquement vient du fleuve Niger et a donné naissance au mot négro, retrouvé en espagnol, en portugais et en anglais, qui vient d'une racine sémitique. Et le mot négro va donner en français le mot nègre. Mais le mot Niger, il vient d'où, lui? Voilà, hein, c'est, mm-hmm. c'est ça. Alors, le mot Niger, il désigne le fleuve. Le grand fleuve Niger qui coule dans le pays des hommes noirs. Pour les Arabes, on appelle ce pays des hommes noirs le Soudan. Soudan. Mm-hmm. Donc, Niger est donc dérivé de cette racine sémitique, NGR, qui n'a rien à voir avec le mot latin Niger, qui signifie black.
D'accord.
Hein? Voilà. Donc, il faut bien comprendre que Niger ne signifie pas noir. Il signifie, étymologiquement, c'est une racine sémitique, NGR, qui signifie l'eau qui coule dans le sable. L'eau qui coule, voilà, NGR. Mais où se trouve, d'où vient cette racine sémitique? Eh bien, elle vient des rapports très anciens qu'il y avait entre les Hébreux, les Sémites, les langues sémites et les langues chamitiques africaines. Et donc, vous savez que en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc, cette racine est à l'origine de nombreux toponymes. Gar, G-A-R, G-E-R, Gir, il y a un fleuve qui s'appelle Gir, Nagar, mm-hmm. et notamment le nom du fleuve Niger qui coule d'ouest en est en s'éloignant de l'Atlantique pour former cet immense delta. Alors, le mot Niger doit faire réveiller, puisque c'est l'eau qui coule, le fleuve, au mot Niagara. C'est la même racine, N-G-R. Ça commence à vous parler là maintenant.
Hein? Oui, un peu plus, oui.
Un peu plus. Hein? Niger, N-G-R, qui signifie l'eau qui coule. Nager également, N-A-G-E-R. Les racines N-G-R sont dans le mot nager. Et donc, le mot Niger signifie un espace, une région, un fleuve. L'espace, c'est le Niger. N-I-G-I-R, le Niger. Le Niger, c'est le fleuve. Donc, ce sont les hommes qui vivent auprès du fleuve. Mmh. Ce sont les hommes du fleuve. Donc, le mot nègre signifie, par identification à l'eau, à la fécondité, au principe de l'eau, correspond donc à un mythe très ancien qui correspond à la fécondité et qui qualifie les hommes qui vivent sur les rives des fleuves. Donc ça n'a rien à voir avec le mot noir, c'est les Latins qui viennent beaucoup plus tard, les Romains qui viennent beaucoup plus tard, qui voient ces peuples-là qui s'appellent Niger. Il y a même deux pays en Afrique qui s'appellent, qui utilisent ces racines, mm-hmm. Le Nigeria et le Niger. Mm-hmm. Ils sont deux pays qui ont de la même région et qui ont gardé le mot Niger. Et donc, maintenant, ce mot est devenu un mot porteur de ce mythe de la création et en même temps un mot porteur de blessures, en raison de la traite négrière, mmh. en raison de ce transbordement d'individus qui ont perdu justement leur généalogie, qui ont perdu leur dieu, leur langue, etc. Et donc, Niger, c'est le plus beau mot de la Terre, puisque c'est assez joli, des hommes qui naissent au bord du fleuve, et qui y vivent. Donc ça n'a rien à voir avec une injure, sauf lorsqu'elle est utilisée pour dégrader, humilier, déshumaniser des hommes qui avaient une mission civilisatrice, celle de l'Afrique mythique, mmh. cette Afrique qui a donné tant au monde, c'est-à-dire le fleuve lui-même, le fleuve le Nil, hein, qui est un fleuve qui coule du sud vers le nord de l'Afrique, et qui vient de la même racine, Et donc le propre des mots, c'est donc de charrier un limon, une étymologie, une généalogie, et que les nègres confrontés à la réalité de l'esclavage, confrontés donc à cette perte d'abord généalogique, arrivent dans le Nouveau Monde, l'esclave noir est juridiquement déchu de toute parenté. Il est de ce fait un sans parent. On dit en Haïti sans maman, hein, créole. Hein, il est sans parent et sa condition d'être un sans maman, un sans papa, lui est imposée par la loi et par la force. On lui enlève son nom, on lui enlève également sa filiation. Et donc, le nègre est. Il y a une éviction de l'ordre de la parenté légale. Et d'autre part, c'est une condition héritée. Donc sa naissance et sa descendance ne donnent droit à aucune relation d'appartenance sociale en tant que telle. Donc c'est la forme la plus aboutie de la déshumanisation, l'esclavage. Et puis, il va y avoir un phénomène d'une grande réhabilitation, d'une grande force. C'est la révolution de Saint-Domingue, la révolution haïtienne. Hein?
Oui, tout à fait.
Cette révolution haïtienne sera donc le moment de réparation de cette déshumanisation où tout citoyen devient maintenant haïtien s'il n'est, comme dit l'article 9 de cette constitution, s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Vous voyez, il y a là rétablissement de la généalogie, hein, bon père et bon fils, bon époux et surtout bon soldat, à l'époque bien évidemment, bonne mère, bonne fille, bonne épouse et surtout bonne guerrière. Et donc, il y a aussi un autre article tout à fait remarquable dans cette constitution de 2005, c'est l'article qui... l'article 13 et l'article 14 dans cette constitution haïtienne de 2005, c'est-à-dire immédiatement après l'acte d'indépendance de 1804, cette constitution va dire ceci: sont aussi compris dans les dispositions du présent article les Allemands et les Polonais naturalisés par le gouvernement. C'est-à-dire que il n'est plus question de blanc ou de noir, hein, de nègre ou de pas nègre, d'accord ? La constitution haïtienne prévoit que les Allemands et les Polonais, naturalisés par le gouvernement, deviennent immédiatement haïtiens, deviennent immédiatement noirs.
C'est assez novateur pour l'époque.
L'article suivant, pourquoi les Allemands et les Polonais ? Parce que certains bataillons allemands et polonais ont abandonné l'armée française du maréchal Leclerc pour se joindre à l'armée indigène de Jean-Jacques Dessalines. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça, cette extraordinaire question. Réglée par la Constitution, il n'y a pas d'hommes de couleur. La Constitution prévoit une déracialisation. Tout ça est suspendu, rétabli par la révolution haïtienne. Cette humanisation absolue fait face maintenant à l'apport des Européens qui restent dans le pays et de certains d'entre eux qui ont participé à la guerre de libération aux côtés des Haïtiens. Eh bien, ils sont immédiatement considérés comme des Noirs, Allemands et Polonais. Ils sont naturalisés. Et l'article 14 va dire... Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef d'État est le père, devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Il y a une autre constitution, un peu plus, qui part de dénomination de nègre. Mais ceci signifie quoi ? Ceci signifie qu'il y a désormais une raison, une autre fondation, et qui va empêcher toute violence verbale qui va encadrer la Constitution, va encadrer la dénomination du citoyen. Le citoyen, désormais, est connu génériquement comme étant un noir ou un nègre, et cette dénomination devient sacrée. C'est pour ça que c'est un grand mot, parce que c'est un événement moral, c'est un événement historique. Il n'est pas lié à la couleur de la peau. Niger, signifiant noir en latin, est une erreur. C'est erroné. Le mot Niger n'a rien à voir avec le mot noir. Le mot Niger vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette racine NGR, des hommes qui vivent auprès des fleuves. Mais donc, c'est pour cela que ce mot a été exalté par les poètes. Hein? Oui, ce mot a été exalté par les poètes. Par Césaire, par Senghor, par les premiers qui en ont fait un mot force, un mot puissant, un mot batouk, hein, comme dit le poème. Voilà.
Mais dites-moi, et compte tenu que tout le processus de comme on dit en anglais, de vilainiser, hein, si on veut, de rendre vilain ce terme, et si je me fie à Maryse Duhamel qui nous disait qu'en inventant la notion de race, hein, les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Donc, on assiste à des gens qui se sont déshumanisés en déshumanisant les autres.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le risque de la hiérarchie raciale, pour construire cette hiérarchie, il a fallu donc inférioriser, justifier la traite en infériorisant les premiers hommes qui présents sur la Terre, c'est-à-dire les Africains, puisque l'homme est né en Afrique. Donc il a fallu faire quelque chose d'une transgression majeure, faire dériver la notion d'homme vers quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire ce que j'appelle la folie raciale. Mmh. C'est-à-dire que la folie de la race ne peut pas être comprise sans ce concept important de la construction du capitalisme. Hein? Il y a race parce qu'il y a exploitation. Le sujet de la race, c'est le sujet du commerce triangulaire entre qui réunit l'Afrique, l'Atlantique, à travers l'Atlantique, l'Europe et les Amériques, et pour nous-mêmes, les Caraïbes. Donc ce sont toutes ces régions-là qui vont former une espèce de vaste ensemble économique, océano-continental, ensemble, excusez-moi 30 secondes.
Donc, comme on peut le constater, c'est l'approche que...
Et donc,
oui, voilà.
Cette conquête des terres d'Amérique passe, comme vous le savez, par le génocide des Amérindiens. C'est déjà une longue et grande blessure, et la déportation des captifs africains qui vont constituer les premières victimes des razzias, des ventes publiques, des traites, jusqu'à presque 20 millions de personnes, d'individus, d'hommes, de femmes et d'enfants pendant 4 ou 5 siècles. Et donc c'est quelque chose de considérable, j'allais dire, cet approvisionnement en esclaves va s'effectuer par cette organisation commerciale quasi scientifique pour construire le capitalisme occidental. Et donc il y a là dans le commerce négrier, il y a là une scène fondamentale qui est celle de la destruction d'un continent, de, effectivement, de la fabrication de la notion de race, qui n'existait pas auparavant, et de poser l'histoire humaine dans un principe de race. L'histoire humaine, mmh. désormais, est marquée par cette traite des nègres et par la destruction des cultures autochtones et leur... Les confinant, c'est le mot, hein, dans des réserves et détruisant leur culture, leur langue, leur dieu et les précipitant sur le plan psychopathologique dans des pathologies d'addiction, de dépendance, de drogue, de suicide, etc. Donc, cette économie-là, cette économie négrière, est une économie qui va permettre la construction du capitalisme. La conquête des terres d'Amérique permettra cet enrichissement européen aux dépens de l'histoire humaine.
Joël Desrosiers, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons à notre disposition. Et si je vous propose vendredi prochain, même heure, même poste.
Eh bien oui, nous allons continuer notre conversation.
Ben super.
Parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur maintenant les conséquences traumatiques de ce mot, de cette conscience pervertie. Je parle de la conscience occidentale, les Européens eux-mêmes et également sur les Africains américanisés, sur les Afro-Américains, sur les Haïtiens, sur tous les autres peuples qui ont vécu cette histoire douloureuse. Oui, nous aurions beaucoup à dire et de continuer cette conversation.
Tout à fait. Alors, Joël Desrosiers, un grand merci. Et puis, si j'étais long dans l'introduction, c'est parce que Joël Desrosiers le mérite. Il faut mentionner...
Merci beaucoup, c'est très aimable.
Allez, à la semaine prochaine, donc.
Prochaine, au revoir.
Au revoir.